Alors Jacques, nous sommes dans quelle émission là? Parce que
la deuxième partie de Onde Noire.
L'émission la plus
rock
du polar, voilà. Non, parce que je trouvais que premier début d'émission là pour la dernière justement
de la saison, la dernière
de la saison, bien sûr. Donc une deuxième partie consacrée à nos coups de cœur de ce dernier mois, enfin de ces derniers mois. Et tout d'abord, je vais vous parler d'un de mes petits chouchous. Il s'appelle Joe Nesbø. Je suppose qu'on prononce comme ça parce
oui,
que
c'est ça.
Voilà, le O est barré. Pour un livre paru à la Série Noire, il y a 2-3 mois, donc Série Noire Gallimard, livre traduit par Alex Fouillet, et il faut quand même que je vous en dise le titre, ça s'appelle « Chasseur de tête ». Chasseur de tête, c'est Roger Brown. Alors, je le laisse lui-même se présenter. Professionnel, analytique. Non, mais je cite, deux points, ouvrez les guillemets. Bon, non mais, c'est pas vrai. Professionnel, je recommence. J'ouvre les guillemets. Professionnel, analytique et sans engagement émotionnel. Je suis un chasseur de tête. Ce n'est pas particulièrement compliqué, mais je suis le meilleur. Donc voici comment il se présente. Autre caractéristique, il est très amoureux de sa femme. J'espère que ça arrive quand même à plusieurs millions d'individus sur Terre, mais très amoureux de sa femme. Et par contre, là où j'espère que les autres ne le suivent pas, pour satisfaire tous ses besoins, il subtilise des œuvres d'art chez les candidats. Alors, la technique est très simple. Chasseur de tête, il donne un rendez-vous professionnel. Et comme il sait que ces gens-là sont donc à leur rendez-vous, eh bien, il connaît leur adresse, il connaît un certain nombre de choses. Il va visiter leur appartement et il subtilise les œuvres d'art. Et là, coup de chance, un Néerlandais, Klaas Grieve, se présente. Alors, non seulement il a l'air brillant pour un poste de dirigeant pour une entreprise développant des GPS, et coup de bol, il est apparemment propriétaire d'un Rubens. Et là, tout bascule dans l'enfer, enfin, surtout pour Roger Brown. En gros, la chasse est ouverte, le duel est lancé, le rodéo peut commencer. Et là, vraiment, le rythme s'accélère et ça va à fond la caisse. Nesbø, on vous en a souvent parlé.
Il est norvégien.
Il est norvégien. Et il a un enquêteur fétiche qui s'appelle Ariol, tout aussi norvégien. Et là, il utilise en gros un sujet classique de roman noir, le chasseur chassé, l'arnaqueur arnaqué. Mais en gros, c'est pour mieux tordre le cou aux facteurs classiques, aux factures, pardon. On va pas tordre le cou aux facteurs, le pauvre. Même si la poste va mal, ce serait bête. Donc voilà, j'ai voulu faire du style, ça marche pas. Hein. Donc c'est pour mieux tordre le cou à toutes ces ficelles. Tout d'abord, ça paraît un peu grossier. Et à de nombreuses reprises, le lecteur, on va dire légèrement condescendant, sera persuadé d'avoir tout compris. Et il croit pouvoir déjouer les choses trappes que lui tend l'auteur. C'est sans compter sur l'habileté, qu'on pourrait qualifier de diabolique, de Joe Nesbø, qui semble prendre un plaisir pervers à piéger son récit et nous mener ainsi par le bout du nez. Il y a une situation dramatique qui se transforme soudain et souvent en une scène drôlatique. Et évidemment, on assiste aussi à l'inverse. Les passages les plus gores se pimentent de détails savoureux. Moi qui aime pas trop les épanchements de sang, là, il y a vraiment, j'ai rigolé à l'éventration sordide d'un cadavre. Ceci dit, un cadavre, ça ne saigne plus beaucoup. Et vraiment, on peut pouffer à la mort abominable d'un chien. Bon, ceci dit, le clébard, il était franchement pas sympa. Mais quand même, quoi. On n'y croit pas une seconde, mais en fait, c'est pas ici l'important. L'auteur a décidé de nous divertir et il y réussit fort bien. On va dire grâce à une écriture dopée aux enfêtes, ça on est un peu habitué avec Joe Nesbø, qui ne s'essouffle jamais. Dans les critiques, les inconditionnels de l'inspecteur Harry, puisque c'est quand même un inspecteur Harry, il trouve quelques reproches, il trouve des choses à redire. Mais moi je trouve que ce livre montre une autre facette du talent de l'écrivain norvégien et ça fait bien plaisir. Donc je rappelle le titre, Chasseur de tête, Joe Nesbø, série noire pour une somme de 17,90 euros. Je sais pas pourquoi ils disent pas 18 euros, moi, mais enfin, c'est pas grave. Je rappelle le traducteur, Alex Fouillet.
Qui traduisait donc du norvégien.
Oui, puisque, voilà, tout ça. Oui, ça se passe en Norvège, oui. Voilà. Par ces chaleurs soudaines, ça peut rafraîchir les idées. Jacques chausse ses lunettes pour nous parler d'un de ses coups de cœur.
Un coup de cœur, c'est un roman d'une femme, Anne Secret.
Mais oui, même les femmes savent écrire, Jacques.
Tout à fait, et bien, elle écrit vraiment très bien en plus. Le roman s'appelle Les Villas Rouges. Il est publié au Seuil dans la collection Roman Noir. Il vaut 17,50€.
Je gagne.
80,
pour le prix, centimes. Pour le prix, je gagne.
Donc, ce roman met en scène, au départ, une jeune femme, Kira, qui est une jeune professeure de lettres, qu'on peut dire en rupture avec l'éducation nationale. Elle a un peu quitté son poste. Et tout au début du roman, elle participe à une action commando visant à faire libérer un activiste allemand lors d'un transfert pénitentiaire. L'action réussit, mais un flic va mourir. Et ça va donc entraîner Kira dans la clandestinité et dans une très très longue fuite. On va la suivre donc de planques en poursuites diverses. En fait, ça c'est juste le début du roman. Et effectivement, pendant tout le reste du roman, on suit Kira. Elle va pas mal bouger, d'abord de la côte normande, ensuite à Paris, Strasbourg, un petit bout d'Allemagne, et même à Ostende. Et on va apprendre à connaître cette femme, presque en même temps qu'elle, dans ses rapports avec ses compagnons de route, ses compagnons de lutte ou de fuite. Ceux qui l'ont, semble-t-il, laissé tomber, ou ceux qui vont l'aider, qu'elle connaissait pas, ceux qui l'ont aimé, ceux qui la trahissent. Et on se rend compte, finalement, que son errance, en fait, a commencé bien avant sa fuite. C'est pas pour rien qu'elle avait quitté son poste de professeur de lettres. Tout comme son histoire d'amour avec Ludo, qui est le chef de la bande. Un amour qui, évidemment, se délite au fur et à mesure, jusqu'au final, qui est surprenant. En fait, ce qui est étonnant dans ce roman, et même remarquable, c'est l'écriture, le style. C'est un roman qui se passe à la fin des années 80, mais on retrouve un peu le style de la fin des années 70, avec cette nouvelle vague du nouveau polar français, disons Manchette, Fajardi, Jonquet, etc. Et même certains auteurs, disons états-uniens, à l'époque, on disait que c'était du roman behavioriste, vachement dur à dire. En français, on dirait comportementaliste.
Je crois que la traduction est très bonne.
Merci. Et c'est absolument pas une étude psychologique comme nous ressasse à longueur de romans certaines anglaises ou certains thrillers qui vont jusqu'à l'excès. Ici, il n'est raconté, Anne Secret ne raconte que les faits jusqu'à l'extrême. Elle ouvre le placard bleu de la cuisine, elle sort la boîte de café instantanée, elle fait chauffer l'eau, remplit la tasse. J'exagère bien sûr, mais c'est à peine ça. Elle raconte tout et rien que les faits.
Et apparemment, et y a jamais, très très bien.
Très très bien, et il n'y a jamais un mot de trop. C'est ça qui est vraiment... Quand on lit, on dit, mais ça doit être vachement facile, parce que finalement, il n'y a presque rien, il n'y a pas d'effet de style, il n'y a rien.
Et pourtant, alors que c'est l'écriture la plus dure.
J'imagine que ça doit être terriblement contraignant de ne pas mettre de mots en trop. Finalement, on se rend compte que c'est au fil des faits que le lecteur se fait une idée de l'histoire et des différents protagonistes.
Quand tu dis des fêtes, c'est des faits.
Des faits.
Oui, c'est oui. Pas les fêtes.
Non, pas les fêtes. Non, elles font pas beaucoup de fêtes parce qu'elles fuient. Des faits, oui, pardon. Je prononce toutes les lettres. Moi, je suis provençal.
Oui, bien sûr, mais c'est pour la compréhension.
Oui, tu as bien fait comme ça maintenant. En plus, comme tu as bien insisté, les gens, j'espère, auront bien compris. C'est son troisième roman, Anne Secret. Le précédent, L'Escorte, il me semble qu'on en avait parlé dans cette émission il y a quelques années, qui était paru en 2005. Et il avait déjà cette force d'écriture. Le premier, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Je ne sais pas s'il est toujours. Il date de 99. Je ne suis pas sûr qu'il soit dispo.
Voilà. En tout cas, Anne Secret, on peut la rencontrer dans une dizaine de jours dans un festival très, très convivial et de très grande qualité qui est le FIRS, Festival International du Roman Noir, qui se passe à Frontignan.
Dans l'Hérault, à quelques kilomètres de Sète.
Merci de la précision. Du vendredi 26 juin au dimanche soir 28. En fait, j'exagère un peu. En fait, ça commence le lundi 22, mais c'est beaucoup pour des publics un petit peu différents.
Il y a des rencontres dans les prisons, me semble-t-il.
Voilà, donc Anne Secret est entourée de une quarantaine d'autres écrivains, tous aussi bons écrivains les uns que les autres, tous à découvrir. Donc, ça se passe sur une très très jolie place. Et le thème de cette année, ce sont les frontières. Et je cite l'organisateur. La frontière, je cite l'organisateur. Pour aborder tant les frontières géographiques et géopolitiques que les aventures intérieures. Beau programme, de vraiment de très très bons invités.
Vous y rencontrerez des débats toujours d'une très grande qualité.
Vous y rencontrerez d'ailleurs la Noiraude. Un petit peu de musique, Jacques, pour rappeler l'atmosphère des années 80.
Voilà, le roman se passait dans les années 80 et tout au début du roman, d'ailleurs, Kira donc écoute désespérée, parce que dans les années 80, la musique, il faut bien dire que c'était difficile, à part Zappa qui faisait un album par an, toujours excellent. Donc là, on va s'écouter ce qui se faisait de presque mieux en France, Téléphone, avec une chanson emblématique, Cendrillon.
Cendrillon pour ses 20 ans et la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves.
Voilà, ça ne rajeunit pas.
Finalement, c'est pas si mal. Hein.
Voilà.
Ça vaut pas un bronzard, par ceci dit.
Donc, dernière parole, notre Père, les anges qui sont dans le ciel. Eh bien, moi, je vous annonce une chose, un nouveau Messie est arrivé. Si, si, tout au moins, dans le dernier livre de Tito Topa, qui s'appelle « Parfois, je me sens comme un enfant sans mère ». Ça vient juste de paraître chez Rivage Noir pour 9 euros.
Alors, voilà. Je précise Tito Topin, parce que tu as dit Tito Topin, et on va se demander si les gens, qui c'est.
Serait-ce une vengeance pas du par tout, rapport non, au c'est... fait de tout à l'heure?
Non, c'est juste pour préciser les choses, que nos auditeurs en voiture, qui ne seront pas forcément extrêmement attentifs, puissent bien retenir.
Donc, Tito Topin, parfois je me sens comme un enfant sans mère. Donc, comme je vous le disais, comme je vous l'annonce, un nouveau Messie est arrivé dans les banlieues. Un aveugle rassemble les foules, et tous les miséreux du coin se pressent afin d'ériger la maison de la paix des cœurs, qui va devenir évidemment leur église. Voilà le point de départ.
Un genre de secte.
Oui, j'ai eu peur. Un genre de secte, effectivement. Voilà le point de départ de cette histoire imaginée par l'esprit très fiévreux, je trouve, cette fois, de Tito Topa. Donc, une telle flamme habite ces nouveaux convertis qu'ils volent, pillent, tuent pour parvenir à leur but et contenter, en gros, leur nouveau dieu. Ce messie qui s'est quand même entouré d'une drôle d'équipe, en gros, un ramassis de gangsters sans foi ni loi, qui ont trouvé une bonne aubaine afin de ramasser le pactole. Parce qu'évidemment, quand ils pillent, une petite partie, en fait, ils vont chercher des matériaux de construction pour cette église et tout, d'un peu d'argent, mais une bonne partie est planquée afin de les enrichir, eux, et pas tellement les pauvres gueux qui se pressent pour construire la maison de la paix et des cœurs. Ça me plaît, ce mot. Parmi ces gangsters sans foi ni loi, Weissmann. Et lui, on l'a rencontré très vite dans le livre, il vient d'abattre un flic, Vasconcelos, après avoir été simplement arrêté en état d'ivresse. Tu as un flic pour ça, quand même, c'est étonnant. Et le commissaire Ballard et toute son équipe trouvent cet
assassinat.
Merci. Ce meurtre gratuit, un peu étrange. Et ils vont commencer à enquêter, en particulier les amis proches de Vasconcelos qui veulent évidemment le venger. Au milieu de tout ça, une guerre ultra-violente éclate entre les nouveaux illuminés, on peut les appeler que comme ça, et la police. Et Ballard est désigné, on va dire volontaire désigné, pour s'infiltrer dans le camp ennemi et faire tout sauter. Là, d'ailleurs, on va très très loin avec le préfet, les dirigeants de la police, c'est très fort. On peut dire en gros que c'est une fable cruelle et plutôt désespérée. Tito Taupin, l'auteur, n'a pas l'air de se faire grande illusion sur notre société actuelle et nous en décrit en gros un avatar qui, s'il semble pour certains totalement irréaliste, est en fait une vision terrible, mais parfaitement lucide, du monde qui l'entoure. En gros, voilà hein, les thèmes, des banlieues qui explosent, un pouvoir prêt à tous les mensonges, toutes les compromissions, d'un autre côté, des êtres humains au bout des rouleaux. Qui pourrait dire que l'on est vraiment dans la science-fiction ? L'écrivain, Tito Taupin, est vraiment habile et nous trousse donc un roman qui semble d'anticipation, mais ne nous y trompons pas, il nous parle d'ici et d'aujourd'hui. Comme à son habitude, il le fait avec un humour et un cynisme qui ajoutent encore au baroque de cette histoire et qui fait de ce roman un pur régal. Comme on dit toujours, le roman noir est une écriture de transgression. Tito Taupin nous le démontre dans ce récit étonnant et vraiment brillant de bout en bout. Vraiment, moi, j'ai commencé ce roman et je ne l'ai pas lâché. C'est régalant. Je rappelle le titre et l'éditeur. Parfois, je me sens comme un enfant sans mère. C'est chez Rivage, la collection Rivage Noir. Et voilà, il est temps de se quitter. Une nouvelle saison se termine.
Nous vous souhaitons un bon été, comme on dit chaque année, plein de lectures.
Lecture de plage, autre lecture.
Et de soleil et de ce que vous voulez.
Et normalement, on se retrouve à la rentrée avec plein de bons...
De
bons livres, voilà. Qu'on va lire pour vous pendant cet été. Mais pour nous, c'est un régal. Allez, un petit peu de notre générique. Bonsoir.